Chapitre 5. Sain et sauf. J'écris cette lettre de ma propre main, et je vous implore d'excuser ma plume qui trace les caractères des six duchés à la montagnarde. Notre estimé scribe Gérepu prépare en ce moment une missive officielle, mais par le parchemin que vous lisez, je désirais m'adresser à vous de veuve à veuve et de femme à femme, et vous dire que je ne m'y trompe pas. Nul octroi de propriété, nul titre ne peut alléger la peine que vous supportez. Votre époux a passé la plus grande partie de sa vie au service de la couronne loin-voyant, et, en vérité, on aurait dû reconnaître depuis longtemps son dévouement à ses souverains. On aurait dû le chanter dans tous les châteaux du royaume. C'est uniquement parce qu'il a risqué sa vie que j'ai survécu lors de cette terrible nuit où Royal, l'usurpateur, s'est dressé contre nous. Modeste, il avait demandé que ces hauts faits demeurent ignorés. Et il me semble cruel que le trône des six duchés se rappelle tout ce qu'il lui doit aujourd'hui seulement, alors qu'il a péri à notre service. Je cherchais parmi les terres de la couronne celle qui récompenserait convenablement les sacrifices de Burick, quand un courrier est arrivé, envoyé par Dame Patience. Les mauvaises nouvelles voyagent apparemment très vite, car on lui avait déjà appris le décès de votre époux. Elle m'écrivait qu'il comptait parmi les amis les plus chers de feu le prince Chevalerie, et que son seigneur aurait certainement souhaité confier son domaine de Flétribois à l'intendance de votre famille. Le titre de ses propriétés vous sera remis au plus tôt et appartiendra définitivement à vous-même et à tous les vôtres. Lettre de la reine Kétriken à Molly Chandelière, épouse de Burick.
J'ai rêvé que j'étais toi.
Il parlait tout bas, le regard perdu dans les flammes. Vraiment?
Et que tu étais moi?
Voilà qui est plaisant.
« Ne fais pas ça, »
dit-il d'un ton d'avertissement. « Quoi donc ? » fis-je l'air innocent.
« Ne joue pas à moi. »
Il s'agita sur notre lit improvisé. La nuit étendait sa voûte au-dessus de nous et une brise tiède soufflait. De ses doigts fins, il écarta ses mèches dorées de son visage. La lueur mourante du feu dissimulait presque les meurtrissures qui s'effaçaient de ses traits. Mais ses pommettes restaient trop saillantes. J'avais envie de lui répondre que quelqu'un devait bien reprendre son rôle puisqu'il y avait complètement renoncé. Mais je préférais demander. Pourquoi ?
Ça m'effraie.
Il poussa un grand soupir.
Depuis combien de temps séjournons-nous ici ?
C'était la troisième fois de la nuit qu'il me réveillait. J'en avais pris l'habitude. Il ne dormait pas bien, ce qui ne m'étonnait pas. À l'époque où je me remettais de mon enfermement dans les cachots de Royal, je m'en souvenais, j'avais fini par ne plus dormir que le jour, et quand je savais Burick à côté de moi, prêt à me protéger. Dans certaines situations, il est rassurant de sentir la lumière du soleil à travers ses paupières fermées, et bavarder à mi-voix sous les étoiles vaut le meilleur sommeil, si fatigué qu'on soit. Je m'efforçais de calculer le temps écoulé depuis que j'avais traversé le pilier avec son cadavre dans les bras, et j'y éprouvais une curieuse difficulté. Les nuits interrompues et les journées mouchetées de soleil semblaient se multiplier. 5 jours ou 4 nuits, suivant la façon comptée. Ne t'en inquiète pas. Tu restes très faible. Je préfère ne pas essayer de retraverser le pilier tant que tu n'as pas retrouvé davantage de vigueur.
Je préfère ne pas essayer de retraverser le pilier du tout.
Je hochai la tête. Mais il faudra y passer quand même. Je ne peux pas laisser lourd à la garde de l'homme noir éternellement. Et puis, j'ai promis à Imbre que nous attendrions le bateau sur la grève, prêt à embarquer. Il devrait arriver d'ici 5 jours, enfin je pense. J'avais perdu toute notion du temps dans le labyrinthe de glace. Pourtant, j'avais beau faire, je ne parvenais pas à m'en soucier. J'avais bloqué tout contact d'art avec le clan depuis l'échec de notre tentative de guérison. À plusieurs reprises, j'avais perçu comme un vague grattement à ma porte, mais j'avais fait la sourde oreille. On s'inquiétait sans doute pour moi. Tout haut, afin de mieux me convaincre, je conclus. J'ai une vie qui m'attend.
Pas moi.
Le fou en paraissait satisfait, et j'y puisais un certain encouragement. Par moments encore, il se figeait, l'air de chercher à percevoir des avenirs désormais muets, et je me demandais ce qu'il éprouvait alors. Il avait passé sa vie entière à s'efforcer d'orienter le temps vers la voie qu'il considérait comme la meilleure. Il y était parvenu. Nous vivions dans le monde qu'il avait créé. Je crois qu'il oscillait entre la joie d'exister en ce temps auquel il avait donné le jour et l'angoisse du rôle qu'il avait à y jouer. Du moins, lorsqu'il y songeait. Parfois, il restait assis sans bouger, courbé sur ses mains abîmées et contemplait fixement le sol devant lui. Son regard devenait lointain, sa respiration si lente et courte qu'elle gonflait à peine sa poitrine. Je savais, quand je le voyais ainsi, qu'il essayait de trouver un sens à des événements qui en étaient intrinsèquement dépourvus. Je ne me donnais pas la peine de chercher à l'en détourner. En revanche, je tâchais de présenter les jours à venir sous un aspect optimiste. En effet, rien ni personne ne t'attend. Tu n'as à te charger d'aucun fardeau, à reprendre aucun harnais. Tu es mort. Quelle délivrance ! Plus personne ne te demande de devenir roi ni prophète. Il se dressa sur un coude. Tu parles d'expérience. Il s'exprimait d'un air pensif, sans tenir compte du ton plaisant que j'avais adopté. Je lui adressai un sourire malicieux. En effet. Avec précaution, il se rallongea, les yeux au ciel. Il ne m'avait pas rendu mon sourire. Je suivis son regard. Les étoiles commençaient à disparaître. Je roulais sur le côté, puis me levais souplement. L'heure de la chasse approche. L'aube arrive. Te crois-tu assez fort pour m'accompagner ? Il ne répondit pas tout de suite. Enfin, il secoua la tête.
En toute franchise, non. Jamais je n'ai été aussi épuisé de ma vie. Que m'as-tu fait ? Je ne me suis jamais senti aussi faible et endolori.
On ne t'a jamais tué à force de torture non plus. Je rejetai cette réponse peu diplomatique. Il te faudra du temps pour te rétablir, voilà tout. Si tu avais un peu plus de chair sur les os, je pourrais me servir de l'art pour te soigner.
Non.
L'interdiction était catégorique. Je n'insistais pas. En tout cas, j'en ai assez des rations de voyage outrilienne, et de toute manière, il ne nous en reste plus guère. Un peu de viande fraîche te ferait du bien, et ce n'est pas en paraissant comme un lézard que je t'en rapporterai. Si tu la veux cuite, tâche de relancer le feu avant mon retour.
D'accord,
fit-il à mi-voix. Je me montrai piètre chasseur ce matin-là. Distrait par le souci que me causait le fou, je faillis marcher sur un lapin et il parvint néanmoins à m'échapper quand je me jetai sur lui. Par chance, il y avait du poisson dans la rivière, gros, argenté et facile à attraper à la main. Je revins aux premières lumières du jour, trempé jusqu'aux épaules, avec 4 prises. Nous les mangeâmes sous le soleil qui montait, puis j'insistai pour que nous nous rendions au cours d'eau nous nettoyer les mains et la figure de la graisse au goût de fumée qui l'immaculait. Le ventre plein, j'aurais volontiers entamé une sieste, mais le fou avait la mine pensive. Assis près du feu, il tisonnait les braises d'un air absent. Au 3e soupir qu'il poussa, je me retournai sur le dos et demandai « Qu'y a-t-il ? »
« Je ne peux pas repartir sur Aslevial. »
« L'ennui, c'est que tu ne peux pas rester ici non plus. Pour l'instant, on y vit assez agréablement, mais crois-moi, l'hiver y est rude. »«
Et tu parles d'expérience ?»
Je souris. Je me trouvais quelques vallées plus loin, mais en effet, là encore... Je parle d'expérience.
Pour la première fois de ma vie, avoua-t-il, j'ignore quoi faire. Tu m'as transporté dans un temps qui s'étend par-delà ma mort. Chaque matin, quand je me réveille, j'éprouve une impression de stupéfaction. Je n'ai aucune idée de ce qui va m'arriver, de la façon d'employer mon existence. Je me sens comme une barque dont on aurait tranché la mare et qui voguerait sans personne à la barre.
Et qu'y a-t-il de si terrible à cela ? Vogue un moment à l'aventure. Repose-toi, reprends des forces. La plupart d'entre nous rêvons de pouvoir nous payer ce luxe. Nouveau soupir.
J'ignore comment m'y prendre. Jamais je n'ai eu pareille impression. et je ne suis même pas capable de te dire si je la trouve agréable ou déplaisante. Je ne sais absolument pas quoi faire de cette existence que tu m'as donnée.
Ma foi, tu pourrais sans doute passer le reste de l'été ici, à condition d'apprendre à pêcher et à chasser un peu. Mais tu ne peux pas te cacher éternellement de ta vie et de tes amis. Un jour ou l'autre, il faudra que tu les affrontes. »
Il faillit sourire. « Et c'est un homme que tout le monde a cru mort pendant plus de 10 ans qui me dit ça. Mais peut-être devrais-je t'imiter, trouver une chaumine et vivre en ermite 1 ou 2 décennies, puis revenir sous une nouvelle identité ?»
J'eus un petit rire. « Ainsi, d'ici 10 années, je pourrais te débusquer de ta tanière. Évidemment, je serais devenu un vieux barbon d'ici là. »«
Mais pas moi, »
répondit-il à voix basse. Il planta son regard dans le mien, l'air grave. Je préférais m'écarter de cette troublante perspective. Je n'avais nulle envie de m'apesantir sur ce genre de sujet. J'aurais bien assez de difficultés à affronter à mon retour la mort de Burick, Lest, Horty, Heur, et puis, tôt ou tard, Molly, la veuve de Burick, ses enfants désormais orphelins, toute complication dont je ne voulais pas et dont je n'avais pas la première idée de la façon de les aborder. Il était beaucoup plus facile de ne pas y penser. Je les chassais de mes préoccupations et réussis sans doute mieux que le fou à oublier le monde qui m'attendait, car j'avais acquis de la pratique. Pendant les 2 jours qui suivirent, nous vécûmes comme des loups, dans l'instant présent. Nous avions de la viande, de l'eau, et le temps se maintenait au beau. Les lapins foisonnaient et il restait du pain de voyage dans mon sac, si bien que nous mangions à notre faim. Le fou poursuivait sa convalescence, et bien qu'il ne rît jamais, il paraissait parfois se détendre. Je connaissais bien son besoin d'intimité, mais la langueur qui se mêlait désormais à sa façon de m'éviter m'emplissait de tristesse. Mes tentatives de plaisanterie n'éveillaient aucun écho chez lui, pas même un froncement de sourcil, ni la plus petite expression de dédain. Il avait toujours fait preuve d'une si grande vivacité d'esprit pour relever l'aspect humoristique des situations les plus dramatiques que, malgré sa présence, il me manquait. Néanmoins, il recouvrait ses forces et mettait moins de prudence dans ses mouvements. Je me répétais qu'il allait mieux et qu'on ne pouvait espérer davantage. Pourtant, l'impatience me gagnait, et quand il déclara un matin « Je me sens assez vigoureux », je ne discutais pas. Notre départ demanda peu de préparatifs. Je voulus démonter sa tente, mais il secoua la tête avec une sorte de frénésie et dit d'une voix rauque
« Non,
laisse-la, laisse-la. » Je restais étonné. Certes, il n'y avait plus dormi depuis son premier cauchemar et avait préféré se blottir entre le feu et moi, mais je pensais qu'il désirerait l'emporter. Toutefois, je ne disputais pas sa décision. De fait, comme je regardais une dernière fois le tissu fin dont la brise légère faisait ondoyer les dragons et les serpents, je ne pus songer qu'au grand pan de peau arraché à son dos et figé dans la glace. Je me détournais avec un frisson d'horreur. Je ramassai au passage la couronne au coq qui gisait par terre. Elle avait recouvré sa texture de bois, si tant est qu'elle eût changé ailleurs que dans mon imagination. Et les plumes gris-argent s'y dressaient, alignées avec raideur. Je la sentais toujours bourdonner dans ma main. Je la levai pour la montrer au fou et demandai « Et ceci, ce cercle de ménestrel, tiens-tu à le garder ou préfères-tu le laisser au sommet du pilier, en souvenir de celle qui l'a porté jadis ?» Il me lança un coup d'œil étrange, puis répondit doucement
« Je te l'ai dit, je ne le voulais pas pour moi.
Il s'agissait de l'enjeu d'un marché que j'ai conclu il y a longtemps. » Il me dévisagea attentivement et reprit avec un léger hochement de tête
« Et il est temps que je l'honore. »
Ainsi, au lieu de nous rendre droit à la colonne d'art, nous empruntâmes à nouveau le sentier indistinct qui passait sous les hautes frondaisons des arbres, franchissait la rivière et débouchait sur le jardin de pierre. Le trajet fut aussi long que je me le rappelais, et de petits cousins nous attaquèrent dès que nous pénétrâmes dans l'ombre. Le fou ne dit rien mais pressa le pas. Des oiseaux voletaient dans les branches et leur ombre croisait notre chemin. La forêt grouillait de vie. Je me souvenais de mon ébahissement la première fois que j'avais entrevu les dragons sous les arbres. J'avais été terrifié, littéralement frappé d'un effroi mystique. Depuis, j'avais marché parmi eux à plusieurs reprises. Je les avais même vus s'animer et s'envoler pour combattre les pirates rouges, mais leur vue ne cessait pas de me stupéfier. Je tendis mon vif et les trouvais, semblables à des bassins verts sombres de vie en suspension sous l'ombre des arbres. Là se reposaient tous les dragons sculptés qui avaient émergé de leur sommeil pour défendre les six duchés contre les pirates rouges. C'est là que nous les avions découverts, que nous les avions réveillés par le sang, le vif et l'art, et qu'ils étaient revenus une fois l'année de combat achevée. Je les avais désignés alors sous le nom de dragons, et je les désignais encore ainsi par habitude, mais tous ne se présentaient pas sous l'aspect qu'évoque ce terme, et certains rappelaient d'autres bêtes fantastiques ou héraldiques. Des plantes grimpantes envahissaient les énormes sculptures, et le sanglier ailé portait en guise de coiffe les feuilles de l'année précédente. Pierre pour l'œil, mais vivant à mon vif, il foisonnait de couleurs et de détails. Je percevais la vie qui vibrait au fond de la roche, mais n'avait aucun moyen de l'amener à la surface. Je déambulais aujourd'hui parmi eux, moins ignorant qu'à l'époque où je les avais découverts, et je pensais même pouvoir distinguer ce que des anciens avaient créé des œuvres des clans des six duchés. Par exemple, sans risque de me tromper, j'attribuais à l'un de ceux-ci le cerf ailé, tandis que, dans le cas de ceux qui arboraient une forme plus proche du dragon classique, je penchais pour une création des anciens. Je me rendis tout d'abord naturellement auprès de Vérité le dragon. Je savais la futilité de chercher à le tirer du rêve de pierre dans lequel il gisait et me contentais d'ôter ma chemise pour épousseter les débris forestiers de son front écailleux, de son échine musculeuse et de ses ailes repliées. Il luisait d'un éclat bleu de cerf sous les mouchetures de soleil quand j'eus fini de nettoyer le grand corps de celui qui avait été mon roi. Après les épreuves que j'avais traversées, la créature endormie m'apparaissait sereine, et j'espérais que ce n'était pas seulement une impression. Le fou, évidemment, avait dirigé ses pas vers la fille au dragon. Comme je m'approchais, je le vis debout devant elle, la couronne dans une main, l'autre posée sur le garrot de la monture. J'observais que ses doigts enduits d'art touchaient la sculpture. Il ne disait rien, et regardait. Le visage figé, la jeune femme à cheval sur le dragon. Elle possédait une beauté à couper le souffle. Ses cheveux, plus dorés que ceux du fou, tombaient sur ses épaules en boucles lâches et caressantes. Elle portait sur sa peau crémeuse un pourpoint vert chasse, mais ses jambes et ses pieds étaient nus. Elle montait une bête encore plus splendide, aux écailles brillantes et vertes comme des émeraudes foncées, à l'élégance détendue d'un marguet endormi. La dernière fois que j'avais vu la jeune femme, elle reposait sur son encolure, les bras passés autour de son col souple. À présent, elle se tenait assise, le dos droit. Les yeux fermés, elle levait le visage comme si elle pouvait sentir les rayons vagabonds du soleil sur sa joue, et un imperceptible sourire flottait sur ses lèvres. Les plantes écrasées sous les pattes de son coursier indiquaient un vol récent. Elle avait porté le fou jusqu'à l'île d'Aslevial, puis était revenue se replonger dans le sommeil au milieu de ses semblables. Je croyais marcher sans bruit, mais comme j'approchais, le fou tourna la tête vers moi.
« Te rappelles-tu le soir où nous avons tenté de la libérer ?»
Je courbai le cou. J'éprouvais encore comme de la honte d'avoir été un jour si jeune et si impétueux. Je le regrette encore aujourd'hui. J'avais établi un contact d'art avec elle, pensant que cela suffirait à la délivrer, mais je n'avais réussi qu'à l'éveiller à la conscience de son tourment. Il hocha lentement la tête.
« Mais la seconde fois où tu l'as touchée, t'en souviens-tu ?»
Un grand soupir m'échappa. Cette nuit-là, je m'étais déplacé par l'art et j'avais vu Molly prendre Burick pour compagnon. Plus tard, j'avais séjourné dans l'enveloppe physique de Vérité, car il avait emprunté la mienne pour engendrer un fils, pour donner devoir à la reine Kétricaine. J'ignorais son intention. Prisonnier du corps perclus de douleur d'un vieillard, j'avais erré dans la carrière de pierre de mémoire en compagnie d'œil de nuit, jusqu'au moment où nous avions surpris le fou à sa tâche défendue. Il avait taillé la pierre tout autour des pattes du dragon, dans l'espoir de permettre à la créature de se dégager. Quelle tristesse j'avais ressentie pour lui, tant il avait pris à cœur le sort de ce couple. Je savais ce qu'il fallait pour éveiller un dragon. Pas seulement le travail manuel d'un homme, mais le don de sa vie et de ses souvenirs, de ses amours, de ses souffrances et de ses joies. Aussi avais-je plaqué les mains de vérité, argentées d'art sur la chair de rogue de la fille au dragon, et y avais-je déversé tout le malheur et le chagrin de ma courte existence pour qu'elle en absorbe la substance vitale. J'avais jeté au dragon mon abandon par mes parents aux soins d'inconnus, les tourments que m'avait infligés Galène et les tortures que j'avais subies dans les cachots de Royal. J'avais confié ces souvenirs au dragon afin qu'il s'en façonne. Je lui avais livré la solitude dont j'avais souffert enfant et le désespoir aux arêtes aiguës de mon arrivée à Œil de Lune. Je les lui avais donnés de grand cœur et j'avais senti ma douleur s'apaisait tandis que le monde perdait un peu de ses couleurs et que mon amour pour lui s'affadissait légèrement. J'aurais poursuivi cet épanchement bien davantage si le loup ne m'en avait empêché. Œil de Nuit m'avait tensé vertement en déclarant qu'il n'avait nul désir de se retrouver lié à un forgisé. À l'époque, je n'avais pas saisi ce qu'il voulait dire, mais maintenant que j'avais vu les guerriers au service de la femme pâle, il me semblait mieux comprendre. Je croyais deviner aussi ce que mijotait le fou et la raison de sa présence devant le dragon. « Ne fais pas ça, » lançai-je. Il tourna de nouveau la tête vers moi, surpris. « Je le sais, tu songes à te débarrasser du souvenir de tes tortures dans cette sculpture. La fille au dragon l'aspirerait et le garderait en elle, où il ne pourrait plus t'assaillir. Ça marcherait. Je parle en connaissance de cause. Mais j'ai dû payer le prix pour la rémission de mes souffrances, fou. » Quand tu estompes la douleur et que tu te caches d'elle. » Les mots me manquèrent. Je ne voulais pas donner l'impression de pleurer sur mon sort.
« Tu estompes aussi tes joies ?»
Il acheva ma phrase, avec simplicité. Il se détourna de moi les lèvres pincées. Pesait-il le pour et le contre ? Déciderait-il de se défaire de ses terreurs nocturnes, aux dépens du bonheur chaque matin ravivé de voir un nouveau jour se lever ?
« J'ai constaté cet effet chez toi par la suite, » dit-il, « et j'en ai conçu des remords. Si je n'avais pas entrepris de dégager la fille au dragon, tu n'aurais jamais accompli ce geste, et j'aurais voulu réparer. Des années plus tard, quand je t'ai rendu visite chez toi, dans ta chaumine, je songeais, il a certainement guéri depuis, il s'est sûrement rétabli. »
Il reporta son regard sur moi.
« Mais non, tu avais seulement... cessez d'évoluer, sous certains aspects. Tu avais vieilli et mûri, sans doute, mais tu n'avais rien fait de ton propre chef pour rentrer dans le courant de la vie. Sans ton loup, c'eût été encore pire, à mon avis. Tu vivais comme une souris dans un mur, en te nourrissant des miettes d'affection qu'Astérie te jetait. Elle-même s'était aperçue de ton état, et pourtant, elle a le cuir épais. Elle t'a amené Heure, et tu l'as adoptée. Mais si elle n'était pas venue le déposer sur le pas de ta porte, aurais-tu cherché à partager ton existence avec quelqu'un ?
Il se pencha vers moi.
Même après ton retour à Castelserre, à ton monde d'autrefois, tu t'en es tenu à l'écart, malgré tous mes efforts. Manoir, par exemple, tu n'étais même plus capable d'établir une relation avec un cheval.
Je restais pétrifié sur place. Ces paroles étaient douloureuses à entendre, mais vraies. « Ce qui est fait, dis-je finalement. Je ne puis que te prévenir désormais. Si tu avais l'intention de m'imiter, abstiens-t'en. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. » Il soupira.
« Je reconnais y avoir songé, y avoir aspiré. Je t'avoue même que ce n'est pas la première fois que je reviens voir la fille au dragon avec l'envie de lui donner mes souvenirs. Elle les prendrait, je le sais, comme elle a pris les tiens. Mais... d'une certaine façon, même si je n'ai jamais vu cet avenir, j'ai l'impression qu'il devait advenir. Fitz, te rappelles-tu son histoire ?
Je réfléchis un instant. D'après ce que m'avait raconté Vérité, elle appartenait à un clan qui avait créé un dragon. Son nom me revient, celle. Je l'ai appris le soir où je lui ai donné mes souvenirs, mais elle a refusé de disparaître dans la sculpture. Elle a essayé de demeurer partie intégrante du clan tout en conservant son individualité, de n'être que la jeune fille à cheval sur le dragon, et par là même, elle a condamné le groupe entier. Elle a trop gardé d'elle-même et la sculpture n'a pas reçu assez de vie pour s'animer. Elle a failli s'éveiller, mais elle est restée engluée dans la pierre jusqu'au moment où tu l'as libérée.
« Où nous l'avons libérée ? » corrigea-t-il.
Après un long silence, il reprit.
« Pour moi, j'ai l'impression de l'écho d'un rêve. Sel était le chef du clan qui portait donc le nom de clan de Sel. Mais à l'achèvement de la sculpture du dragon, c'est Réalder qui s'est montré disposé à lui donner vie.
Aussi, au moment où l'on a cru qu'il allait s'éveiller, on l'a annoncé comme le dragon de Réalder. Il posa sur moi un regard serein.
« Tu l'as vu ?
Coiffé de la couronne au coq, honneur rarement accordé, surtout à une étrangère. Mais elle avait parcouru une longue route pour trouver son catalyseur, et comme moi, elle avait adopté le rôle d'artiste, bouffon, ménestrel, acrobate. » Il secoua la tête. En cet instant, lors de ce bref songe au sommet du pilier, nos personnalités se sont superposées. J'étais, comme je suis aujourd'hui, un prophète blanc, et, dominant la foule, j'annonçais l'éveil du dragon de Réalder au peuple de la Cité des Anciens. Mais non sans regret, car je savais que mon catalyseur allait accomplir ce jour-là ce que le destin lui imposait depuis toujours. Il allait se fondre dans un dragon afin de pouvoir, des années plus tard, opérer un changement essentiel. Il s'interrompit avec un sourire doux amer, le premier que je voyais depuis des jours.
Quelle terrible douleur elle a dû éprouver en constatant que la créature restait engluée, sans parvenir à s'animer complètement à cause des réticences de Sel. Elle a sans doute cru avoir échoué elle aussi. Pourtant, si Réalder n'avait pas sculpté ce dragon, si son éveil n'avait pas avorté, si nous ne l'avions pas découvert toujours prisonnier de la carrière, que se serait-il passé, fit ce chevalerie loin-voyant ?
Tu as jeté un regard très loin dans le temps, ce jour-là, sur un prophète blanc qui faisait le bouffon tout en haut d'un pilier d'art.
As-tu vu tout cela ?
Je clignai lentement les yeux, avec le sentiment de sortir d'un rêve, ou peut-être d'y replonger. En l'écoutant, j'avais senti frémir en moi des souvenirs que je ne pouvais pas avoir.
Je vais remettre la couronne au coq au dragon de Réalder. C'est le prix qu'il m'a réclamé la première fois que j'ai volé sur son dos. Il a déclaré vouloir porter pour toujours la couronne qui coiffait le prophète blanc le jour où sa bien-aimée lui a dit adieu juste avant qu'il ne se dissolve dans la sculpture.
Le prix de quoi ? Demandai-je. Mais il ne me répondit pas. Il passa son poignet dans le cercle de bois, puis entreprit une prudente ascension du dragon. J'observais avec chagrin la raideur et la circonspection de ses mouvements. J'avais presque l'impression de sentir moi-même les tiraillements de la peau toute neuve de son dos. Mais je me retins de lui offrir mon aide. Ce geste n'aurait fait que nous gêner davantage. Une fois sur la croupe de la créature, il chercha son équilibre, puis, à deux mains, il posa la couronne sur la tête de la jeune femme. Un instant, elle garda son aspect de bois argenté, puis le dragon lui infusa des couleurs. Elle prit l'éclat de l'or, les têtes de coq qui l'ornaient devinrent rouges, et les pierres précieuses de leurs yeux étincelèrent. Les plumes elles-mêmes acquirent le luisant des vraies plumes et perdirent leur rigidité pour s'agiter doucement comme de véritables rémiges de coq. Les joues de la jeune femme rosirent davantage, puis une inspiration parut soulever sa poitrine. Je restais pétrifié de stupéfaction. Soudain, ses yeux s'ouvrirent, verts comme les écailles de son dragon. Sans m'accorder la moindre attention, elle se tourna vers le fou qui se tenait toujours derrière elle sur l'échine de sa monture, tendit la main et lui prit le menton, les yeux plantés dans les siens. Il se pencha, captif de son regard. Alors, elle passa la main derrière sa nuque et attira sa bouche contre la sienne. Elle l'embrassa avec fougue, et spectateur involontaire, je fus témoin de la passion que lui inspirait ce qu'elle avait partagé avec lui. Pourtant, on n'eût pas dit un baiser de reconnaissance, et comme il se prolongeait, il me sembla que le fou l'eût rompu s'il avait pu. Il se raidit, et les muscles de son cou commencèrent à saillir. Loin de serrer la jeune femme dans ses bras, il ouvrit les mains dans une attitude défensive, puis crispa les poings contre sa poitrine. Le baiser se poursuivit, et je craignis de voir le fou se fondre dans la fille au dragon, ou bien se changer en pierre dans son étreinte. J'avais peur de ce qu'il donnait, et plus encore de ce qu'elle prenait. N'avait-il pas écouté ce que je lui avais dit? Pourquoi n'avait-il pas tenu compte de ma mise en garde? Tout à coup, aussi brusquement qu'elle s'était animée, elle le relâcha. Comme si elle ne lui prêtait plus le moindre intérêt, elle se détourna de lui et offrit de nouveau son visage au soleil. Je crus l'avoir poussé un soupir, puis elle ferma les yeux et se figea peu à peu. La couronne au coq, scintillante, faisait désormais partie intégrante de la fille au dragon. Mais le fou, délivré de cette étreinte dont il ne voulait pas, glissait mollement de côté. À demi inconscient, il dégringola du dragon et j'eus tout juste le temps de le rattraper avant qu'il ne rouvre, dans sa chute, ses plaies à peine closes. Néanmoins, il poussa un grand cri quand mes bras se refermèrent sur lui, et je le sentis parcouru de violents frissons, comme un homme saisi d'un accès de fièvre. Il tourna vers moi un regard qui ne voyait rien et s'exclama d'une voix pitoyable.
« C'est trop. Tu es trop humain, Fitz. Je ne suis pas fait pour supporter une pareille charge. Enlève-la-moi, prends-la, sans quoi j'en mourrai. »
« Que je prenne quoi ? » demandai-je affolé. Le souffle court, il répondit.
« Ta peine, ta vie. »
Et tandis que je restais pétrifié, sans comprendre, il approcha ses lèvres des miennes. Je pense qu'il voulait agir avec douceur, mais j'eus plus l'impression d'une attaque de serpent que d'un tendre baiser quand sa bouche se colla à la mienne et que le venin de la douleur s'écoula en moi. Si son amour ne s'était pas mêlé à l'angoisse déchirante qu'il me rendait, je crois qu'humain ou non, j'aurais succombé. C'était un baiser où je me tordais dans les flammes, un torrent de souvenirs que je ne pouvais plus refuser à présent, qu'ils avaient commencé à se déverser. C'est une torture pour un homme d'âge mûr de revivre toute la passion dont est capable un adolescent. Le cœur devient fragile avec le temps, et le mien faillit finir broyé sous cet assaut. Je ployais sous une tempête d'émotions. Je n'avais pas oublié ma mère, jamais. Je l'avais enfermée à double tour dans un recoin de mon cœur, sans jamais accepter de lui ouvrir la porte. Mais elle demeurait en moi, avec ses longs cheveux d'or au parfum de soucis. Je me rappelais également ma grand-mère, elle aussi d'origine montagnarde, et mon grand-père, simple garde, resté trop longtemps en garnison à Udelune et qui avait adopté les coutumes des montagnes. Tout me revint en un éclair. Et je me remémorais ma mère qui m'appelait dans les pâtures où, malgré mes 5 ans, je participais déjà à la surveillance des bêtes.
« Képette, Képette !»
lançait sa voix claire, et je me précipitais à sa rencontre, pieds nus sur l'herbe humide. Et Molly, comment avais-je pu chasser de ma mémoire son odeur, son goût de miel et de simple, son rire carillonnant après que je l'avais pourchassé sur la plage, ses mollets nus fouettés par sa jupe rouge, le contact de ses cheveux dans mes mains, ses lourdes mèches qui s'accrochaient à la peau rêche de mes paumes. Elle avait les yeux sombres, mais ils brillaient de l'éclat des chandelles quand je la regardais en lui faisant l'amour dans sa chambre, tout en haut du château de Castelserre, à l'étage des domestiques. Je croyais que cette lumière n'appartiendrait jamais qu'à moi seul. Et Burick, il avait rempli auprès de moi, aussi bien qu'il le pouvait, le rôle de père, puis d'ami, lorsque j'étais devenu assez grand pour travailler à ses côtés. Je comprenais qu'il puisse être épris de Molly alors qu'il me pensait mort, mais j'éprouvais en même temps un sentiment d'outrage et une peine démesurée, irrationnelle, à l'idée qu'il eût osé prendre pour épouse la mère de ma fille. Par ignorance, par passion, il m'avait volé la femme de ma vie et mon enfant. Les coups pleuvaient sur moi sans interruption, comme sur une masse de fer battue sur l'enclume de la mémoire. Je languis à nouveau dans les cachots de Royal. Je sentis l'odeur de la paille pourrie sur le sol, le froid de la pierre contre mes lèvres éclatées et mes pommettes tuméfiées. Alors que je gisais par terre et appelais la mort de mes vœux, afin qu'il ne pût plus me faire de mal, écho cruel de la correction que Galen m'avait infligée des années plus tôt, sur la tour, dont on désignait le sommet sous le nom de « Jardin de la Reine ». Il m'avait attaqué à la fois physiquement et par l'art, et pour parachever son œuvre, il avait estropié ma magie en m'implantant profondément dans l'esprit que je n'y possédais aucun talent, et ferais mieux de mourir plutôt que poursuivre une existence qui jetait l'opprobre sur ma famille. Il m'avait laissé le souvenir ineffaçable du moment où j'avais failli me suicider. Le temps ne s'était pas écoulé. Tout se produisait à l'instant même et me laissait l'âme écorchée, exposée à un vent chargé de sel. Je revins à l'été, à l'éclat décroissant du soleil. Les ombres s'approfondissaient sous les arbres. Je gisais sur le terreau de la forêt, le visage enfoui dans les mains, au-delà des larmes. Le fou, assis près de moi dans l'herbe et les feuilles mortes, me caressait le dos comme si j'étais un petit enfant, et chantait une chanson douce et répétitive dans sa langue d'autrefois. Peu à peu, elle retint mon attention et ma respiration convulsive s'apaisa. Quand j'eus cessé de trembler, il murmura « Tout va bien, Fitz. Tu es redevenu complet. Cette fois, quand nous rentrerons, tu retrouveras ton ancienne vie, toute ton ancienne vie. » Au bout d'un moment, je constatais que mon souffle me revenait. Lentement, je me relevais, avec des gestes si prudents que le fou me prit le bras pour me soutenir. Toutefois, ce n'était pas le manque de force qui ralentissait mes mouvements, mais la stupeur, l'abasourdissement de celui à qui l'on vient de rendre la vue. Le contour de chaque feuille se détachait avec netteté, et là, les nervures et la découpe dentelée en forme de cœur qui avait laissé des insectes. Des oiseaux s'appelaient et se répondaient dans les frondaisons, et ils submergeaient mon vif avec une telle acuité que je n'arrivais pas à écouter les questions que le fou me posait à mi-voix. Le soleil crevait la voûte des feuillages et tombait en traits d'or parmi les arbres. Des grains de pollen jetaient de brefs éclats dans ses rayons. Nous parvînmes au ruisseau et je m'agenouillais pour boire son eau froide et douce. Mais comme je me penchais, les rites qui se formaient au-dessus des pierres captèrent soudain mon attention et m'entraînèrent dans la pénombre claire du monde en dessous de la surface mouvante. Le limon se déposait en motifs stratifiés sur les galets et des plantes aquatiques ondulaient dans le courant. Un saumoneau argenté plongea à travers elles pour disparaître sous une feuille marron. Je le poussai du doigt et ne pus m'empêcher d'éclater de rire en le regardant s'enfuir comme une flèche. Je me tournai vers le fou pour voir s'il avait assisté à la scène et m'aperçus qu'il m'observait avec une expression empreinte d'affection, mais aussi de gravité. Il posa la main sur ma tête, comme un père qui bénit son enfant, et dit « Si je considère tout ce qui m'est arrivé comme une chaîne ininterrompue qui m'amène ici, près de toi, à genoux, devant ce ruisseau, vivant et complet, alors le prix n'était pas trop élevé. Te voir redevenu entier m'aide à guérir. » Il avait raison. Il ne manquait plus rien de moi. Nous ne quittâmes pas la place au milieu de la forêt ce soir-là. Je fis un nouveau feu et nous passâmes la plus grande partie de la nuit à le contempler. De la même façon que j'eus trié des manuscrits ou rangé des simples pour imbres, je passais en revue les années écoulées depuis que j'avais renoncé à la moitié de ma vie et en réorganisais les souvenirs. Demi-passion, relation où je n'avais rien investi ni rien reçu en retour, retraite, esquive, repli. Allongé entre les flammes et moi, le fou feignait de dormir, mais je savais qu'il veillait avec moi. À l'aube approchant, il me demanda « Ai-je mal fait ?»« Non, » répondis-je à mi-voix. « Ce mal, je me le suis fait, il y a longtemps. Tu m'as engagé sur la voie qui me permettra de le réparer. J'ignorais comment je m'y prendrais, mais j'y parviendrai. » Le matin venu, j'éparpillai les cendres du feu sur la place, puis nous laissâmes la tente des anciens battre au vent et prîmes la fuite devant les signes précurseurs d'un orage d'été. Nous nous partageâmes mes vêtements chauds, puis ses doigts sur mon poignet, liés par l'art, nous pénétrâmes dans le pilier. Nous sortîmes dans la salle au sommet de la tour de glace de la femme pâle. Suffoquant, le fou réussit à faire deux pas en chancelant avant de tomber à genoux. La traversée du pilier m'affecta moins durement, bien que je souffrisse un moment de vertige, mais presque aussitôt, le froid m'assaillit. J'aidai mon compagnon à se relever. Il parcourut les êtres d'un œil stupéfait en se frottant les bras pour se défendre de l'air glacial. Je lui laissai un peu de temps pour se remettre et examiner les vitres bordées de givre. Le panorama enneigé, le pilier d'art qui écrasait la pièce, puis je lui dis doucement « Allons-y ». Nous descendîmes l'escalier et fîmes une halte dans la salle de la carte. Il observa le monde qui s'y trouvait représenté. Ses longs doigts errèrent sur la mer ondoyante, puis allèrent s'arrêter au-dessus de Serre. Sans y toucher, il désigna les quatre petits joyaux près de Castelserre.
« Ces points, ils indiquent des piliers d'art ?»«
Je pense, oui, » répondis-je. « Cela doit figurer les pierres témoins. » D'une caresse pleine de regrets, il suivit de l'index la côte d'une contrée loin au sud-est de Castelserre. Nul escarboucle n'y brillait. Il secoua la tête.
« Plus aucun de ceux qui me connaissaient n'y vit. Faut-il que je sois stupide pour y avoir seulement songé ?»«
Il n'est jamais stupide de penser à rentrer chez soi, » dis-je. « Si j'en priais Ketriken, elle... »«
Non,
murmura-t-il.
Il s'agissait d'une lubie passagère, Fitz. Je ne peux pas retourner là-bas. »
Quand il eut fini d'examiner la carte, nous reprîmes l'escalier pour descendre dans l'éclat bleu pâle du labyrinthe. J'avais l'impression de m'enfoncer dans un cauchemar familier. À mesure que nous avancions, le fou tremblait de plus en plus violemment et blêmissait, et le froid n'en était pas seul responsable. Les meurtrissures encore violacées de son visage ressortaient comme les marques de l'emprise de la femme pâle sur nous. Je tentais de chercher une issue en ne suivant que les couloirs de pierre, mais en vain. Comme nous allions de salle en salle, je me laissais séduire par la beauté du palais, tout en m'inquiétant du mutisme et de la fatigue croissante du fou. Peut-être avions-nous commis une erreur de jugement. Peut-être n'était-il pas prêt à revenir sur les lieux de son martyre. À l'étage que nous parcourions, la plupart des salles paraissaient avoir échappé aux actes de vandalisme et aux déprédations que j'avais constatées ailleurs. Amoureusement sculptés, des motifs forestiers, floraux et animaux décoraient les linteaux de pierre et se retrouvaient dans les frises qui ornaient les pièces, étrangères et exotiques, trop pastelles ou trop sombres pour mon goût d'habitant des six duchés. Les personnages étirés présentaient des yeux aux couleurs fantaisistes et des marques insolites sur le visage. Ils rappelaient Selden, le marchand de Terrilleville, avec ses excroissances anormales et ses traits écailleux. J'en fis la réflexion au fou, et il acquiesça de la tête. Plus tard, alors que nous suivions un nouveau couloir de pierre, il me demanda
« As-tu déjà vu un rosier blanc qui voisine depuis plusieurs années avec un rouge ?»«
Sans doute, » répondis-je en songeant au jardin de Castelserre. « Pourquoi ?» Il eut un bref sourire qui ressemblait à un tic nerveux.
« À mon avis, tu les as regardés sans vraiment les voir. »
Après des années de promiscuité, il se produit un échange dont les effets se manifestent le plus visiblement sur les roses blanches, car elles prennent un ton rosé ou présentent de fines vénules rouges sur le blanc jusque-là immaculé de leurs pétales. Ce phénomène s'explique par un transfert mutuel de l'essence même des deux plantes. Je l'observais du coin de l'œil. Son esprit battait-il la campagne et devais-je m'inquiéter? Il secoua la tête.
« Un peu de patience. Laisse-moi t'expliquer.
Hommes et dragons peuvent vivre côte à côte, mais, sur une longue période, ils exercent une influence les uns sur les autres. Les anciens présentent les stigmates d'une fréquentation intime des dragons pendant des générations. » Il prit une expression un peu plus triste et ajouta « Les modifications ne sont pas toujours positives. Parfois, en cas d'exposition excessive, les enfants meurent peu après la naissance ou voient leur espérance de vie très réduite. Certains, guère nombreux, jouissent au contraire d'une durée d'existence accrue, aux dépens de leur fertilité. Les anciens vivaient longtemps, mais ils étaient peu féconds et leurs enfants rares et précieux. » Et par nos actions, nous avons réintroduit les dragons dans le monde, où ils pourront induire à nouveau ces transformations chez les humains, fis-je.
Oui, en effet.
Cette perspective paraissait le laisser un pas vide.
L'homme apprendra ce que coûte de vivre à proximité de ses créatures. Certains accepteront volontiers de payer ce prix, et les anciens réapparaîtront.
Nous marchâmes un moment en silence. Puis, une nouvelle question me vint. Et les dragons eux-mêmes, nous côtoyer ne les affecte-t-il pas aussi ? Il se tut longtemps. Enfin, il répondit.
« Si, je pense, mais ils considèrent leurs rejetons modifiés comme une honte et les exilent. Tu as visité l'île des autres. »
Cette dernière phrase me laissa confondu et je ne trouvais rien à dire. Encore une fois, nous arrivâmes à un croisement d'où partaient trois couloirs, un de glace, deux de pierre. Au hasard, je choisis l'un de ces derniers. Tandis que nous poursuivions notre progression, je m'efforçais de concilier l'image que le fou présentait des anciens avec celle que je gardais de mes rencontres avec eux. Je croyais les anciens semblables à des dieux ou presque, déclarai-je pour finir. Beaucoup plus élevés que les humains intellectuellement et spirituellement. C'est ainsi que je les ai perçus quand je me suis trouvé en leur présence, fou. Il me lança un regard intrigué. Dans le courant d'art, j'ai croisé des êtres désincarnés doués d'une grande puissance mentale. Il releva soudain la tête. Je m'arrêtai à côté de lui et tendis l'oreille. Il se tourna vers moi, les yeux agrandis de peur. Je portai la main à l'épée et nous restâmes ainsi figés quelques instants. Je n'entendis rien. « Ne t'inquiète pas, lui dis-je. Les mouvements de l'air dans ces passages donnent l'impression d'un murmure lointain. » Il acquiesça de la tête, mais il lui fallut plusieurs minutes pour retrouver une respiration régulière. Alors il reprit.
Je pense que l'art constitue un vestige d'une époque lointaine, la dernière trace d'un lien établi entre les dragons et les hommes, d'un talent acquis afin de communiquer entre eux. Je ne comprends pas de quoi tu parles quand tu évoques le courant d'art, mais peut-être cette capacité permet-elle de se passer d'un corps physique. Tu m'as démontré qu'il s'agissait d'une magie beaucoup plus puissante que je ne l'imaginais. Peut-être est-elle née chez les humains de leur fréquentation prolongée des dragons. Et a-t-elle survécu, si bien qu'après la disparition de ces derniers, les descendants des anciens ont conservé cette aptitude et l'ont transmise à leurs enfants. Certains n'en ont hérité qu'une parcelle, chez d'autres, il m'adressa un regard en coin, le sang des anciens est resté plus vigoureux.
Comme je ne répondais pas, il demanda d'un ton presque moqueur.
Tu n'arrives pas à l'avouer tout haut, n'est-ce pas? Pas même à moi?
Je pense que tu fais erreur. Si tu avais raison, ne le saurais-je pas, ne le sentirais-je pas. Tu prétends que je descends, par Edas et quel miracle, des anciens. Cela signifierait, en un sens, que je suis en partie dragon. Il éclata de rire. Je ne l'avais pas entendu exprimer ainsi sa joie depuis si longtemps que je me réjouis, bien qu'il s'esclaffât à mes dépens.
Il n'y a que toi pour présenter les choses ainsi, Fitz. Non. Je ne veux pas dire que tu es en partie dragon, mais qu'à un moment l'essence de ces créatures s'est mêlée à ta lignée familiale. Un de tes ancêtres a peut-être respiré le souffle du dragon, selon la formule des vieux contes, et tu es le dépositaire de cette rencontre.
Nous poursuivîmes notre chemin.
Le frottement de nos semelles sur le pavage éveillait des échos insolites, et à plusieurs reprises, le fou jeta des regards par-dessus son épaule.
Comme un chaton à queue longue issu d'une dynastie de chats à queue courte, demandai-je.
On peut voir ça sous cet angle.
Je hochai lentement la tête. Ça expliquerait l'apparition de l'art là où on ne l'attend pas, même chez les Outrilliens, semble-t-il.
Tiens, qu'est-ce que cela?
Il avait toujours eu la vue plus perçante que moi. Ses doigts fuselés suivaient une marque gravée dans le mur. Incapable d'en croire mes yeux, je m'approchai pour l'examiner et reconnus l'une des miennes. « C'est le chemin qui nous ramène chez nous, » dis-je.